Nous revenons ici à Kinshasa avec une première question, madame, sur la gauche.
Merci Florence. Je suis Marthe pour l'agence France Presse. Je reviens sur la situation en Ituri. La MONUSCO a déployé ses bases. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les éléments que vous avez à votre possession, qu'est-ce que se passe-t-il? S'agit-il d'une rébellion ou de violences intercommunautaires? Et parce que vous dites que les dialogues, vous allez vous contacter où il y a un dialogue entre les acteurs en présence. Qui sont ces acteurs exactement? Merci.
Donc je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Donc pour l'instant, on essaye, comme vous, de comprendre la situation, mais avec une priorité qui est de porter assistance aux personnes qui sont dans le besoin et de protéger les populations. Ensuite, effectivement, mieux comprendre la situation, et c'est la raison pour laquelle M. Grécigny est sur place depuis lundi. Il est sur place avec, il a retrouvé sur place le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Ils sont allés hier sur le terrain, ils le sont encore actuellement, et ils rencontrent les leaders de toutes les communautés. Ils essayent de comprendre effectivement ce qui se passe, afin de pouvoir mieux ajuster notre réponse. Mais en attendant, avant d'avoir toutes les clés de cette nouvelle crise, nous n'épargnons aucun effort pour pouvoir une fois encore protéger les populations civiles avec les déploiements de nouvelles troupes et le déploiement aussi d'unités de police constituées. Et nous avons aussi au niveau de la MONUSCO, mais je pense que Yvon va peut-être pouvoir compléter pour les humanitaires, nous avons également renforcé notre bureau de terrain à Bounia, afin de pouvoir répondre à cette situation de crise. Yvon, est-ce que du côté des humanitaires, j'imagine que la mobilisation est la même, n'est-ce pas?
Ben, effectivement, du côté de Bounia, depuis le début de ces violences, que ce soit du côté des agences onusiennes ou du côté des ONG, il y a toute une série de réponses concrètes qui ont été apportées, tant en termes de nourriture, en termes d'abri, en termes d'eau, d'assainissement. Il faut savoir que les autorités congolaises ont alloué un deuxième site pour abriter les nouveaux arrivants, les personnes qui continuent à fuir les violences. Donc voilà, c'est une situation qui est assez dramatique, qui reflète un peu la situation actuelle dans pas mal de provinces où on a des poches de nombreuses poches de tension entre des communautés qui de façon générale vivaient paisiblement ensemble jusqu'à un passé récent. Voilà.
Nous restons à Kinshasa avec une deuxième question, monsieur.
Gilles Chitoumbaï, de Horizon 33. Ma question s'adresse à madame Florence. Le mandat de la MONUSCO, effectivement, pourra se terminer à la fin de ce mois-ci. Il y a le gouvernement qui est en train de penser que la MONUSCO est en train de vivre son avant-dernier mandat. Tout simplement parce que, au plus tard en décembre, il y aura les élections et que l'année prochaine, on saura déjà le président que nous aurons et toutes les institutions. Et que le mandat qui viendra peut-être cet été, et ce sera le mandat juste pour dire au revoir à la RDC. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer quant à ça? Merci.
Alors, donc effectivement, le mandat est en train d'être discuté, mais vous le savez, il est discuté par les États membres du Conseil de sécurité et non pas par la MONUSCO. Nous mettons en œuvre le mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. À savoir si nous nous préparons à une fin de notre mission ici, oui, c'est tous les jours nous nous y préparons, et tous les jours notre travail au quotidien ici est motivé par le fait de pouvoir faire quelque chose qui puisse contribuer à la stabilisation et au développement de ce pays et qui, à la fin, permettra notre départ. Par nature, les opérations de maintien de la paix qui sont décidées par le Conseil de sécurité répondent à une problématique précise avec elles ont un mandat, on nous donne une mission pour pouvoir répondre à cette problématique. Lorsque le Conseil de sécurité estime que le travail a été accompli et que les problèmes qui au départ avaient justifié la création d'une mission ont été résolus, le Conseil de sécurité décide de mettre fin à la mission. Donc oui, nous y préparons et nous espérons pour le bien du Congo que ce jour arrivera prochainement. Nous repartons à Goma.
Oui, je suis Isaac Mastaki pour le compte de Manuel TV à Goma. J'ai la possession de communiqués de presse de signés par certains Guile Kunda à Remana. Dans ces communiqués, on cite la Bondisco pour la réussite de leurs activités. C'est un communiqué du groupe Impact Rapide qui s'est dit être responsable des atrocités à Goma dans les quartiers Kecheo, Katoi, et il demande à ce que le gouvernement libère M. Papi Roger et Joas Kambale. Alors la question est celle-ci, est-ce que vous êtes au courant de cette formation ou vous êtes cité à vos remerciements? Merci beaucoup.
Effectivement, j'ai connaissance de cette information et je n'ai pas de commentaire à y apporter. On prend une deuxième question à Goma.
J'ai maintenant Roberto Mutua Milimani. J'ai une question par rapport à les mots de l'insécurité. Je me pose la question, est-ce que l'insécurité c'est toujours les crépitements des balles ou quoi? Alors, par rapport à ça, ma question est adressée au Major Adil. Major Adil, vous avez brossé toutes les provinces du Congo, mais vous avez oublié qu'au Sud Kivu, il y a un ça ne va pas par rapport à l'insécurité qui se bat sur la route numéro 5 entre Uvira et Bukavu. Et je sais que vous avez déployé beaucoup de militaires indiens et autres qui sont là-bas. Est-ce que les Congolais continueront toujours à passer dans les pays étrangers pour accéder à leur propre village? J'ai dit.
Merci pour votre question. Il ne s'agit pas des militaires indiens, il s'agit des militaires pakistanais. Ce sont des militaires pakistanais qui sont déployés au niveau de la route numéro 5 avec le concours du bataillon béninois. Donc s'agissant de la situation là, je pense qu'on a, dans pas mal de fois, on a lancé, on a contribué à apaiser la situation. Je vous renvoie à ce qu'on a fait en septembre lorsque le Maïmaïa Katumba menaçait Uvira. Parallèlement à ça, on a aussi octroyé notre aide au FARDC lors de nos opérations de nettoyage de la péninsule de Boiré. Donc on continue nos actions, on est en contact avec les partenaires du FARDC pour continuer la lutte contre les groupes armés. Parallèlement à ça, les sections subventives, bien sûr, en liaison avec notre sur place, continuent les missions de liaison avec les différentes communautés qui sont engagés soit au sud Kivu, soit au Tanganyika, les Bantous, les Banyamulenge, les Bafolero, les Toa. Donc, on continue notre effort de paix. Et je pense que la situation, plus ou moins, est calme. Et c'est grâce en grand pourcentage aux actions de la MONUSCO.
Nous venons ici à Kinshasa, monsieur, oui. Tout au bout. Et après, ce sera madame.
Merci madame Marcel Amène Dimoine pour Numérica Télévision. Monsieur Yvon Edoumont, vous parlez de la crise humanitaire en RDC. C'est vrai, vous citez même cette crise parmi, je pense, si pas la plus grande crise humanitaire, vous citez parmi les plus grandes crises humanitaires. Et moi je suis quand même un peu dérangé du fait que c'est comme si la grandeur du problème, on la ressent vraiment que lorsqu'on vient ici à la conférence des presses de la MONUSCO. Je ne sais pas, mais en face de vous, le gouvernement congolais, vous avez parlé d'un nouveau site ouvert. Mais est-ce qu'en chiffres, nous pouvons vraiment savoir en quoi est-ce que la situation est vraiment désastreuse?
Alors, j'ai envie de dire que vous ne lisez pas assez ce qu'on écrit, mais bon... Alors, en quoi est-ce que la crise congolaise est désastreuse? L'année dernière, nous avions à peu près 5 millions de personnes qui étaient dans le besoin. Cette année, nous sommes à 10 millions. L'année dernière, nous avions lancé un appel pour à peu près 812 millions de dollars américains. Nous avons dû doubler ce montant pour lancer un appel cette année de 1,7 milliard de dollars américains. C'est la première fois qu'on passe le milliard en termes d'appel de fonds en RDC. Le montant est tellement grand et que cela nous, c'est ce qui nous pousse à lancer cette, à organiser cette conférence de donateurs le 13 avril prochain à Genève. Quand vous prenez, je peux faire toute la liste et ça va peut-être prendre trop de temps, mais quand vous prenez tous les indicateurs et que vous les comparez 2018 à 2017 ou 2018 à 2016, tous les chiffres ont flambé, que ce soit en termes de maladies, que ce soit en termes de personnes déplacées. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC est classée parmi une des crises majeures du monde. Comme vous le savez, il y a quelques mois, nous avons déclaré ce qu'on appelle le niveau L3 pour la RDC, qui est, ce n'est pas quelque chose de très flatteur, ça veut dire qu'on est dans une situation critique. Juste pour mettre un peu en relief, le Yémen et la Syrie sont les deux autres pays qui sont considérés comme niveau L3. Donc ça vous donne un peu ce à quoi nous avons affaire en RDC. Et je pense que c'est peut-être un peu dommage que c'est seulement quand vous venez à la conférence que vous avez le sens de ce qui se passe. Il faudrait peut-être qu'on les envoie sur le terrain de ces jours pour que vous puissiez voir les camps des déplacés dans le Tanganyika, en Ituri, le Sud Kivu, le Nord Kivu, ben toute la région est du pays, c'est pas top.
Donc nous restons ici à Kinshasa avec, je vous l'ai promis, madame.
Merci Florence, c'est Nostali Bouamoutala pour la RTGA. Je reviens sur la situation sécuritaire à Djougou. Ma question est courte. Quelle est la vraie nature de ces conflits, Florence? Merci.
Et ma réponse va être courte. J'ai déjà répondu. Pour l'instant, on ne peut pas qualifier ces conflits. Il y a peut-être certaines évidences par rapport à ce conflit qu'on veut éviter, et c'est la raison pour laquelle on se donne le temps d'aller sur le terrain, d'envoyer des équipes d'enquête pour pouvoir venir avec des informations qui ne seront peut-être pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. Nous retournons à Goma pour une question, s'il vous plaît.
Oui, merci. Je suis Norbert Mundouloa pour le compte du journal Émergence Plus. Parce que nous sommes au mois de la femme, nous avions eu une séance d'échange avec le bureau de l'information publique de la MONUSCO ici sur le rôle des médias dans la promotion de la femme. Moi, je vais savoir quelle sera la part, bien sûr, de la MONUSCO pour pouvoir accompagner le média dans le vrai sens de réaliser cette promotion-là de la femme rurale. Merci.
Bon, c'est une question qui ne rentre pas franchement dans le cadre de cette conférence de presse. La manière avec laquelle on travaille avec vous le savez, c'est qu'on vous considère tous comme des professionnels, que vous soyez des hommes ou des femmes, et qu'à compétence égale, ben oui, on en sera peut-être tenté de faire appel plus à une femme qu'à un homme pour pouvoir justement faire partie de ce mouvement de promotion des femmes. Dans nos propos, nous essayons toujours de vous livrer des informations qui précisent bien est-ce qu'il s'agit d'hommes, est-ce qu'il s'agit de femmes, est-ce qu'il s'agit d'enfants. Voilà, c'est notre contribution. Après, pour les programmes un petit peu plus précis, des activités qui pourront être menées avec les journalistes, ça n'entre pas dans le cadre de cette conférence. On revient ici à Kinshasa avec monsieur. Une question ici sur la gauche.
Merci Florence. Venant vous dire ça de la RTNC. Florence, vous l'avez dit, la résolution sur la reconduction du mandat ou non de la MONUSCO ne sera adoptée qu'au 27 mars. Mais en attendant, les échos font état du redimensionnement de ces mandats. Qui véhicule, c'est la question, qui véhicule ce genre d'informations qu'on croit comme parole d'évangile? Et ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Sinon, ça provient d'où, ce genre d'informations? Ce sont des rumeurs, des faux bruits. C'est à vous à nous le préciser.
On ne va pas entamer ici une dissertation sur la folle histoire des rumeurs. Évidemment, quand il se passe les résolutions et le fonctionnement du Conseil de sécurité, c'est toujours quelque chose d'un petit peu secret. L'autre jour, par exemple, quand Mme Zerougui était à New York, il y a eu une séance publique que vous avez pu suivre sur la télé des Nations Unies. Et puis après, c'était une session à huis clos. Donc c'est vrai que autour du fonctionnement même du Conseil de sécurité, il y a toujours ce petit halo de mystère, mais qui est inhérent à la diplomatie. C'est sûr que les grands problèmes de ce monde ne peuvent pas être discutés sur la place publique, et forcément cela entraîne des rumeurs. Chacun pense pouvoir peut-être dire que il s'est dit telle chose, etc. Restons sereins, attendons tranquillement le 27. On a encore deux petites semaines à attendre. Et en sachant que ça m'étonnerait quand même qu'on ait quelque chose de dramatiquement différent de ce que nous avons actuellement. Je crois qu'il faut qu'on retourne à Goma. Une question pour Goma.
Oui, mon nom c'est Frédéric, je travaille pour Radio Sotienjili. Et ma question s'adresse une fois encore au mandant Adil, et c'est sur la situation de Djougou. Quelles sont concrètement les activités que vous faites dans le cadre des opérations militaires dans les territoires de Djougou, puisque les Congolais continuent à se faire massacrer? D'après certaines sources, c'est que les forces de sécurité congolaises sont dépassées par les violences dans les territoires de Djougou. Il y a actuellement plus de 200 000 déplacés dans l'attaque de la nuit du lundi au mardi.
S'il vous plaît, je suis désolée de vous couper, mais on a déjà. J'ai l'impression qu'on a vraiment déjà couvert ce sujet.
Je demande des précisions, madame.
D'accord, mais dans ce cas-là, faites vite, s'il vous plaît, que tout le monde puisse parler, parce que je crois qu'on a vraiment couvert largement ce sujet. Donc, posez votre question, mais en faisant vite, s'il vous plaît.
D'accord. Les précisions, c'est que les activités que vous faites dans le cadre de vos opérations militaires, puisque les forces de sécurité congolaises, apparemment, sont dépassées par les violences dans les territoires de Djougou.
Ces trois bases sont responsables de lancer des patrouilles de longue durée, patrouilles de domination de terrain. Je peux même vous parler des cas concrets où la semaine dernière on a reçu des informations sur une attaque qui se prépare sur le village de Bolé, qui est à 15 km nord de Blokwa. Donc une patrouille de notre base temporaire de Blokwa a été dépêchée sur place et les assaillants ont pris la fuite à l'approche de notre patrouille. Effectivement, là, il y a une attaque qui a été faite au niveau de Blokwa Centre contre le camp des FRDC. Donc, on a lancé notre patrouille en appui aux éléments de sécurité nationaux et on a pu reposer cette incursion. Donc, c'est une panoplie d'activités militaires qui est en train de se faire. Donc, on a intensifié nos patrouilles pour la création d'un environnement protecteur plus ou moins. Donc, je vous remercie.
Nous revenons ici à Kinshasa avec une question, madame.
Merci, Aline Engue pour le compte de chukudunews.com. Madame Florence, 2 semaines pratiquement nous séparent de votre fin de mandat, du renouvellement de votre mandat. Si aujourd'hui vous étiez en face du secrétaire général des Nations Unies, vu tout ce qui se passe, en fait, vu le problème de la femme congolaise, que peut être votre vœu pour cette femme? Merci.
Il y a Yvon qui me regarde de façon dubitative et qui se dit qu'est-ce qu'elle va répondre. je crois qu'on s'est, il y a deux semaines, c'est ça, on avait la représentante d'ONU Femmes qui était invitée à cette conférence de presse. Madame Zerougui elle-même a participé à une conférence informelle organisée par certains membres du Conseil de sécurité sur femmes, justice et paix. Et elle a dit que les femmes congolaises l'inspiraient beaucoup et qu'elle voulait se servir de cette inspiration pour pouvoir mener son mandat. Les femmes congolaises actuellement, on le voit dans toutes les informations qu'on vous délivre au fil des semaines, ces femmes congolaises payent un lourd tribut à la crise que connaît actuellement le pays. Ce sont souvent elles qui malheureusement sont les premières victimes. Et pourtant, elles relèvent toujours la tête, elles se battent, elles sont fortes. Et ce sont ces femmes congolaises auxquelles on veut rendre hommage et qui nous inspirent et qui nous guident dans notre travail. On sait qu'elles ont un rôle déterminant dans le règlement des conflits. Les collègues qui travaillent sur le terrain nous donnent des exemples de femmes qui, dans les communautés, prennent des initiatives afin que ceux qui sont hostiles les uns aux autres finissent par se parler. Et puis aussi, en cette année d'élection, il est aussi important que les femmes puissent non seulement se rendre aux urnes, pour exprimer leur droit de vote, mais aussi il est important que des femmes se présentent aux élections et puissent vous représenter, vous, Congolaises et Congolais, dans les futures institutions du pays. Voilà ce que je pouvais répondre. On va prendre monsieur. Ah, non. Il y a eu un vol de micro, c'est pour...
Merci pour la parole, c'est un point Katumba. Une préoccupation, Madame Florence, mais des curiosités. Nous avons remarqué la MONUSCO circuler dans quelques paroisses de Kinshasa pour recueillir quelques informations auprès des curés ou vicaires de l'Église catholique. Lors de la marche pacifique du 31 décembre, 21-25 février 2018. Est-ce que pourriez-vous expliquer, éclairer l'opinion publique nationale et internationale concernant ce mobile de recueillement des informations au sein des paroisses catholiques? Je vous remercie.
Alors, lors des manifestations auxquelles des appels du CLC pour les marches donc du 31 et puis ensuite celles de janvier et de février, on l'avait annoncé à cette conférence de presse. Nous avons des équipes de la MONUSCO qui se sont déployées sur le terrain afin de pouvoir observer ce qui se passait et pouvoir rapporter sur les événements. Et donc, j'imagine que ce que vous avez pu observer entrait tout à fait dans le cadre du déploiement du travail de nos équipes sur le terrain, qui c'est un travail qui lui-même entre dans le cadre de notre mandat, en tout cas celui qui nous est donné actuellement par la résolution 2348. On repart à Goma pour une dernière question. À Goma.
Et merci, c'est Yvonne Kapinga pour M. Chapiris TV. Les contractants de l'INOPS sous le mandat de la MONUSCO qui ont fait un sit-in pendant 48 heures devant les installations de la MONUSCO à Goma, ont-ils déjà trouvé satisfaction à leurs revendications?
Alors effectivement, il y a actuellement un mouvement de grève qui est en cours à Goma, qui concerne des personnels de la MONUSCO qui sont sous contrat avec UNOPS, qui est une autre entité des Nations Unies. Alors certains de ces personnels avaient précédemment un contrat avec la MONUSCO, mais en raison des baisses de budget successives de la mission ces dernières années, certains contrats qui arrivaient à terme n'ont pas été renouvelés. Et lors de l'annonce de ce non-renouvellement, des procédures ont été appliquées, des procédures très particulières et très précises qui encadrent donc ces processus de séparation. Concernant le règlement du conflit, il y a toujours eu, et cela continue, un dialogue entre les personnels et le leadership de la MONUSCO. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de ce processus. La MONUSCO a communiqué de façon régulière au personnel et à leurs représentants toutes les informations qui étaient relatives à la fois aux coupes budgétaires et aux changements de type de contrat. Alors, un de vos collègues a posé la question tout à l'heure et on va faire le lien. Il est important de replacer ces événements dans un contexte plus global de la vie d'une opération de maintien de la paix. Les postes dont les missions sont par nature temporaires, car un jour, ben, nous partirons, nous quitterons ce pays et forcément, nous supprimerons des postes. C'est la nature même des opérations de maintien de la paix. On revient ici pour une minuscule question. Oui, madame.
Qu'on a nommé, merci, le procureur que le secrétaire général a nommé pour continuer les enquêtes de désespoir, s'il est de quelle nationalité, juste ça.
Alors, M. Petit est un procureur canadien. Il a été nommé par le secrétaire général pour venir en soutien à l'enquête menée par les autorités congolaises sur la mort de nos deux collègues experts, Michael et Zaïda. Et donc, son travail est un travail de soutien aux autorités congolaises. Et nous espérons qu'une fois encore, que toute la lumière pourra être faite sur les événements qui ont conduit à l'assassinat de nos collègues et que la justice pourra être rendue. Voilà, alors merci à tous pour votre participation à cette conférence de presse. Le programme de la semaine prochaine est modifié. Il n'y aura pas de conférence de presse mercredi prochain, mais il y en aura une vendredi 23. Elle sera animée par le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc pas de rendez-vous mercredi prochain, mais un rendez-vous le vendredi 23 avec le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'heure, ce sera dans cette salle, mais l'heure vous sera précisée dans les jours qui viennent. Voilà, merci bien, à bientôt.